Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 3. Et nous allons regarder les six premiers versets de ce chapitre. L'auteur continue sa présentation du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a commencé dans les deux premiers chapitres. Et il continue donc son raisonnement. Hébreux, chapitre 3. Et nous continuons la lecture, donc nous reprenons la lecture au verset. Premier, voici donc la parole de Dieu. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et c'est la parole de Dieu. Comme on l'a déjà dit, cette lettre aux Hébreux a été écrite pour exhorter les chrétiens qui étaient sous le feu de l'ennemi à rester fermes dans leur foi au Seigneur Jésus-Christ. Et les premiers versets de ce chapitre 3 illustrent bien cette idée. Ce passage commence et se termine par une exhortation à l'endurance. Il commence par nous encourager à fixer nos pensées sur le Seigneur Jésus-Christ. Il se termine par nous exhorter à garder courage, à garder notre espérance en Christ. Le verset 1 pourrait très bien faire partie du chapitre précédent, le chapitre 2, se termine en soulignant que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le péché, a vaincu la tentation. Il est donc capable d'aider ceux qui sont tentés. Et l'auteur continue en disant, c'est pourquoi. Considérez Christ, fixez vos regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Puisque le Seigneur Jésus-Christ est celui qui a vaincu la mort, vaincu le diable, vaincu le péché, l'auteur raisonne, faites de lui l'objet conscient de votre foi. Il appelle ses lecteurs frères saints et ceux qui ont part à la vocation céleste, il les identifie à la fois comme les destinataires de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et aussi ceux qui sont appelés à vivre pour lui. Et cette exhortation, elle reçoit un soutien supplémentaire à partir de la description du Seigneur Jésus-Christ dans le verset 1 comme l'apôtre, le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Un apôtre est celui qui est envoyé pour représenter Dieu devant les hommes, pour parler, pour agir en son nom. Le souverain sacrificateur représente les hommes devant Dieu, offre un sacrifice pour leurs péchés. Et Moïse, dans l'Ancien Testament, est la seule figure à remplir ces deux fonctions. Et en tant que tel, il a pointé vers le Seigneur Jésus-Christ, celui que nous proclamons comme l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. On a vu au chapitre 1 que l'auteur établit la supériorité du Seigneur Jésus-Christ sur les anges. Maintenant, au chapitre 3, il nous parle de la supériorité et la suprématie du Seigneur Jésus-Christ sur Moïse. Et c'est le premier point de ce message. Le Seigneur Jésus-Christ est bien plus grand que Moïse. L'auteur nous dit au verset 2 qu'il a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Le Seigneur Jésus est une figure qui peut être comparée à Moïse, le plus grand prophète de l'Ancien Testament. La plus grande figure sacerdotale de l'Ancien Testament. Et le Seigneur Jésus-Christ et Moïse partagent la plus grande reconnaissance qui puisse être donnée, à savoir qu'ils étaient fidèles. ils étaient fidèles. Non seulement le Seigneur Jésus est comparé favorablement à Moïse, mais il est même supérieur à Moïse. C'est ce que nous dit l'auteur au verset 3. Jésus a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Et le point ici est évident. Ces croyants à qui l'auteur s'adresse ne devraient pas tomber de la nouvelle alliance en Jésus-Christ pour retourner vers l'ancienne alliance de l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus-Christ est supérieur au plus grand héros de l'Ancien Testament, Moïse, par lequel l'ancienne alliance a été donnée. Et donc la nouvelle alliance en Christ est bien supérieure à l'ancienne. Mais ce passage est remarquable, parce qu'il nous donne une perspective du Nouveau Testament sur le ministère de Moïse et sur l'Ancien Testament en général. Moïse est un serviteur fidèle dans la maison. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils. Il est l'héritier qui construit la maison pour Dieu. Cela signifie que le ministère de Moïse n'est pas en conflit avec le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Moïse était un serviteur dont le travail faisait partie de l'œuvre ultime du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 5 nous dit cela de manière particulière, que l'œuvre, le ministère de Moïse était vrai en tant que prophète. Il a témoigné de ce qui devait être annoncé, c'est-à-dire au temps du Seigneur Jésus-Christ. Et on se souvient des conflits du Seigneur Jésus avec les pharisiens qui l'accusaient de violer la loi de Moïse, en guérissant par exemple le jour du sabbat. Mais Moïse, le législateur, était le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. La loi était la loi du Seigneur Jésus. Le Seigneur est l'accomplissement de la loi, le véritable enseignant de la loi. C'est ce que le Seigneur Jésus dit dans le serment sur la montagne, en Matthieu 5, verset 17, par exemple. Il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et le Seigneur Jésus fait remarquer que Moïse avait prédit son ministère. Il a ordonné aux gens de lui faire confiance. En Jean 5, par exemple, verset 45 et 46, le Seigneur dit aux pharisiens, « Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. » L'œuvre, le message de Moïse parlait des choses à venir. Moïse était le serviteur dont le travail a favorisé la construction de la maison du fils, de l'héritier. Tout dans l'administration mosaïque pointe vers le Seigneur Jésus-Christ. Le tabernacle parle de Dieu qui demeure avec l'homme, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. L'année du jubilé au cours de laquelle les esclaves étaient libérés, la terre était rendue aux propriétaires d'origine, parle du grand jour de délivrance qui est venu en Christ. Le Seigneur Jésus s'appelle Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. L'apôtre Jean, au début de son évangile, nous dit « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire. » Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Les sacrifices des agneaux, des taureaux, des chèvres, parlaient de l'œuvre expiatoire, de l'œuvre propitiatoire sur la croix. Et c'est un point que l'auteur de cette lettre aux Hébreux va souvent souligner dans cette lettre, que tout ce qui était donné dans l'Ancien Testament était une ombre de la réalité à venir. Dans sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul regarde en arrière sur la façon dont Moïse a apporté la manne du ciel, a fait couler l'eau d'un rocher. Il se souvient que les enfants d'Israël buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher, était Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. Et dans Jean chapitre 6, le Seigneur lui-même enseigne, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui vous donne la vie du monde, et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Jean 6, 32 à 35. Et plus tard, lorsque le Seigneur Jésus était transfiguré sur la montagne devant les disciples, Moïse était là avec Élie. Il parle de l'exode, de la délivrance de Moïse qui était un avant-goût. Il parlait bien sûr de la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix pour nous délivrer de notre Égypte, de notre esclavage au péché. Moïse a présenté à Israël des images, des types du Messie à venir, des ombres qui sont portées en arrière dans l'Ancien Testament par la lumière de Jésus-Christ qui est venu dans ce monde, qui est venu accomplir tout ce qui était annoncé. Le Seigneur dit, Moïse a témoigné à mon sujet. C'est du Seigneur Jésus-Christ que Moïse a parlé, par exemple, en Deutéronome 18, verset 15. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Et ceci étant le cas, si Moïse pouvait écrire aux croyants juifs, il leur dirait la même chose que souligne l'auteur de cette lettre. « Tenez fermement au Seigneur Jésus-Christ. » En réalité, Moïse a écrit une telle lettre d'une certaine manière. Il a écrit les 5 premiers livres de la Bible, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, et le but ultime de ces livres était d'annoncer le Seigneur Jésus-Christ comme le sauveur de son peuple, l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. Ces déclarations décrivent Moïse comme un fidèle serviteur dans la maison de Dieu sur laquelle le Seigneur Jésus-Christ est le constructeur, le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre par la maison de Dieu? C'est le deuxième point, la maison de Dieu. Certains commentateurs considèrent cela comme le tabernacle, la tente d'assignation dans laquelle Moïse servait fidèlement, tandis que d'autres désigne Israël dans son ensemble comme la maison de Dieu. Et les deux sont vrais. Le verset 6 insiste particulièrement sur cette dernière réalité en disant « Sa maison, c'est nous ». La maison que Jésus construit, dans laquelle Moïse a servi, c'est le peuple de Dieu. Et cela nous dit qu'il y a une continuité fondamentale entre l'Israël de l'Ancien Testament et l'Église du Nouveau Testament, et bien sûr des différences. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple attendait le Messie, et c'était une attente nationale, c'était l'Israël national. Dans la Nouvelle Alliance, on regarde à ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ, et c'est l'Église multinationale, composé de personnes de toute race, de toute langue, de toute tribu, qui regardent à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. L'accomplissement, par exemple, de la typologie du temple, du tabernacle, c'est l'Église, c'est la maison de Dieu, construite non pas des mains d'hommes, par un travail humain, non, bâtie par le Seigneur Jésus-Christ et la puissance de son évangile. Pour le dire d'une autre façon, l'Israël de l'Ancienne Alliance est le bourgeon dont l'Église de la Nouvelle Alliance est la fleur. Mais si c'est la définition de ce que sont les chrétiens, c'est-à-dire la maison de Dieu, on devrait se poser la question, pour quelle raison construit-on une maison? On pourrait dire qu'on construit une maison pour la gloire, et c'est certainement ce qui est en vue ici. C'est un domaine majestueux, montre certainement la richesse, l'habileté le talent de celui qui peut se permettre de la construire. Mais la raison principale pour laquelle on construit une maison, c'est pour y vivre. C'est une merveilleuse réalité que Dieu nous a rachetés pour que nous soyons sa demeure, pour qu'il vive en nous. Cela souligne que Dieu habite son peuple. C'est vrai pour les croyants individuellement, pour reprendre le titre d'un livre, je ne sais pas si ça existe en français ce livre, mais en traduisant le titre en anglais, c'est « La vie de Dieu dans l'âme de l'homme ». Si nous sommes venus à Dieu par la foi en Jésus-Christ, alors il vit en nous. Il travaille en nous par son Esprit Saint pour que nous désirions faire sa volonté, pour que nous fassions sa volonté. Le Seigneur Jésus a dit que de l'Esprit qu'il enverrait à ses disciples, Jean 14, verset 17, « Il demeure avec vous et il sera en vous. » Mais bien que nous devions souligner cette application individuelle, la description ici est plutôt corporative, c'est une description d'ensemble. Nous sommes ensemble, la maison de Dieu. Il demeure parmi nous aussi bien qu'en nous. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16, l'apôtre Paul dit « Car nous sommes le temple vivant, le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Paul a utilisé ce point pour argumenter que l'Église est appelée à être sainte comme Dieu est saint. L'apôtre Pierre, dans un autre passage bien connu, 1 Pierre 2, verset 5, il dit « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » L'Église est le temple saint où Dieu, qui est saint, demeure en esprit, où il est adoré, où il est servi. Cela nous donne bien sûr des informations vitales sur l'Église. Dans la construction d'une maison, on pose d'abord la pierre angulaire. Ensuite, cette pierre vient établir les lignes et les angles pour l'ensemble de la structure. Ensuite vient la fondation qui va soutenir cette structure qui est bâtie sur la fondation. Et l'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens 2 que l'Église est une telle maison. Le Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire. Les apôtres sont le fondement. Leur enseignement tel qu'il nous est donné, tel qu'il est enregistré dans la parole de Dieu, nous dit comment l'Église est établie, comment l'Église grandit. Et puisque les apôtres sont le fondement, le croyant est celui qui reçoit et qui croit le témoignage des apôtres dans le Nouveau Testament, qui construit sa vie sur ces témoignages, parce que ce fondement repose sur le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Malheureusement, aujourd'hui, certaines personnes ne prennent pas l'Église au sérieux. On est, par nature, des individualistes acharnés. On pense qu'on peut agir seul. Mais c'est la communauté corporative des croyants qui est la maison de Dieu. On voit que l'Église n'est pas une institution humaine, c'est un édifice divin que Dieu érige, dans lequel lui-même demeure. Et donc faire partie de l'Église, c'est avoir ce privilège de faire partie de ce peuple de Dieu. C'est aussi avoir des racines historiques, des connexions spirituelles avec les autres croyants maintenant du passé, mais aussi dans les générations à venir. Nous voulons connaître l'histoire de l'Église, comme des personnes font des recherches sur leur généalogie familiale. Aimer le Seigneur Jésus nous pousse à aimer ceux qui font partie de son peuple, à servir son Église, à servir ceux qui la composent. Et l'Ancien Testament nous révèle une géographie du salut. Si quelqu'un voulait connaître Dieu dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas regarder n'importe où. Bien sûr, Dieu est partout, mais il s'est spécialement révélé dans un endroit particulier, parmi son peuple, en Israël, et surtout à Jérusalem, là où il y avait le temple. Si quelqu'un voulait trouver Dieu, il devait aller là où se trouvait la maison de Dieu, comme la reine de Saba est allée à Jérusalem au temps de Salomon. Et aujourd'hui, si quelqu'un veut connaître Dieu, il doit aller là où se trouve l'Église qui prêche la parole de Dieu et l'Évangile de la grâce de Dieu. Bien que Dieu demeure partout, il est toujours, il se révèle en particulier au milieu de son peuple. Il se révèle à ceux qui le servent dans la foi. C'est une raison pour laquelle les croyants doivent être membres d'une église, une église fidèle. La croissance du croyant, la croissance chrétienne, la vie de disciple, sont des choses qui se passent dans l'église, dans la maison de Dieu. Ce n'est pas un effort solitaire, c'est une vie d'ensemble. C'est ensemble que nous avançons. Et le culte a lieu dans l'église, parce que quand le peuple de Dieu se rassemble, Dieu promet de rencontrer son peuple. Et l'auteur de cette lettre aux Hébreux va exhorter plus tard à ses lecteurs à ne pas négliger les rencontres, parce que le rassemblement du peuple de Dieu, c'est l'Église qui se retrouve, c'est la maison de Dieu qui se retrouve. Il n'y a donc pas de plus grand privilège que de faire partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand appel que celui du chrétien à s'offrir soi-même, à offrir ce qu'il a, son temps, ses talents, pour l'œuvre de Dieu. Si on donne toute son énergie à son travail, si on utilise ses talents que pour son profit personnel, si on n'utilise son argent que pour soi-même, si on néglige l'Église qui va demeurer pour toujours, on ne s'en rend pas compte que l'Église est le corps, le temple, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, celui qui règne maintenant, qui viendra bientôt chercher les siens. En fin de compte, c'est ce que le Seigneur fait à travers l'Église qui va importer le plus. L'Église, si on peut utiliser cette image, ne se vit pas sur le canapé. L'Église implique, ou chaque croyante impliquée dans la vie de l'Église, de façon visible ou non. C'est comme l'image du corps humain. Il y a des parties que l'on voit et des parties qu'on ne voit pas. Et le corps a besoin de toutes les parties. Et dans l'Église, c'est la même chose. Des choses essentielles que l'on voit et des choses essentielles qu'on ne voit pas, comme le ministère de la prière, pour la proclamation de la parole, pour le témoignage de l'Église, etc. La lettre aux Hébreux est une lettre d'exhortation. Elle comprend un grand nombre de commandements, de déclarations conditionnelles, et l'un de ceux-là se termine ce passage au verset 6. « Sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Et c'est le troisième point que nous voulons considérer. Considérer, fixer les regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Les croyants sont parfois troublés par ce genre de déclaration, souvent parce qu'ils ont l'expérience d'une théologie légaliste qui nie la sécurité du croyant en Christ. Mais ces déclarations sont appropriées, sont même nécessaires. Le but de ces déclarations, c'est d'encourager la foi du croyant face aux difficultés. Et l'auteur nous dit, puisque vous êtes la maison que Dieu construit, soyez fermes. Restez ferme dans la foi que vous professez. Il n'y a pas de conflit entre l'enseignement que tous les vrais croyants sont en sécurité entre les mains de Dieu et l'enseignement qui souligne que les chrétiens doivent persévérer dans la foi. Tous les vrais croyants vont continuer dans la foi jusqu'à ce qu'ils soient rassemblés par le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est également vrai que la vraie foi chrétienne n'est prouvée que par la constance, la persévérance. Nous sommes effectivement sauvés par la foi seule en Jésus-Christ seul. Mais l'épreuve de notre foi vient de notre volonté de persévérer dans la difficulté et la persécution. Ceux qui ne persévèrent pas, comme Démas, l'ancien compagnon de Paul, ceux qui trahissent le Seigneur Jésus, comme Judas Iscariote, révèlent en réalité qu'ils n'ont jamais vraiment possédé la foi qui sauve. Ils n'ont jamais vraiment été sauvés, même s'ils ont été très proches. Si on est croyant, si on est chrétien, Dieu nous appellera à faire preuve de courage devant le monde en tenant fermement à notre espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et d'où vient le courage? Le courage vient de Dieu. Le courage vient de notre connaissance de lui, notre connaissance de son salut. Le courage nous vient de par l'Esprit Saint que Dieu envoie dans le cœur de ses enfants. Pour le dire différemment, le courage vient de la vue. Tout au long de l'histoire, sur d'innombrables champs de bataille, le cœur des soldats a été encouragé par la vue du drapeau qui flottait. Et ceux qui voyaient ce drapeau, cela leur rappelait d'une part la maison où ils espéraient retourner en héros, mais cela leur rappelait aussi la cause pour laquelle ils étaient venus combattre. Voyant le drapeau flotter, ils savaient que la victoire était proche. Et c'est ce que l'Évangile fait pour les chrétiens. Parce qu'ils portent la promesse de Dieu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8. Sachant que l'œuvre du salut de Dieu est certaine, que notre trésor est en sécurité au ciel, cela nous donne l'audace pour cette vie éphémère, cette vie passagère, avec ses épreuves, avec ses tentations. L'histoire nous montre que les grands chefs ont inspiré une bravoure formidable par leur simple présence, simplement en laissant les soldats poser leur regard sur eux. Alexandre le Grand, César, Napoléon, bien d'autres, tous avaient cette aura d'invincibilité qui produisait un courage sans faille dans le cœur de ceux qui les voyaient au milieu de la mêlée. C'est ce que les yeux de notre foi voient quand nous les fixons sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est le capitaine de notre salut. Napoléon, probablement le plus grand conquérant de l'histoire militaire, avait l'habitude que ses généraux viennent dans sa tente et regardent dans ses yeux avant de sortir pour mener les troupes au combat. Et de même, notre foi doit voir le Seigneur Jésus-Christ, voir son front autrefois couronné d'épines, qui est maintenant couronné de la couronne de gloire. Et Napoléon, comme la plupart des autres grands conquérants de ce monde, a finalement été vaincu. Même ceux qui n'ont jamais perdu une bataille dans la vie, comme Alexandre le Grand, ont néanmoins été vaincus par la mort. Et le Seigneur Jésus-Christ est vainqueur sur tous ses ennemis, quand il est entré dans la tombe, même la mort est devenue son prisonnier. Et maintenant, il vit, il règne pour toujours, il place ses ennemis sous ses pieds. Fixons donc les regards sur lui. Nous trouverons la force pour chaque bataille, l'espoir dans chaque épreuve. Les premiers destinataires de cette lettre étaient confrontés à une grande persécution pour leur foi, peut-être même la menace de mort. C'est quelque chose que les croyants vivent encore aujourd'hui. Le remède contre la crainte de la persécution, c'est de voir le Seigneur Jésus-Christ assis sur son trône, en victorieux. Comme nous avons vu dans le chapitre 2, verset 9, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. C'est ce spectacle qui a rempli les yeux d'Étienne, le premier martyr. Dans le livre des Actes, lorsque les gens autour se rassemblaient pour le lapider, nous lisons ceci, « Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus, debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Acte 7, versets 55 et 56. Et Étienne, avec l'espoir du salut, a trouvé la grâce de demander pardon pour ceux qui le lapidaient. La persécution est une source de tentation, mais les gens tombent aussi parce qu'ils sont attirés par ce monde et ses plaisirs. Et si on connaît nos cœurs, on ne sous-estimera jamais cette menace de mondanité pour notre foi. Et la réponse à cette menace, nous l'avons aussi dans ce passage. Considérez Jésus. Fixez le regard sur le Seigneur Jésus-Christ. En voyant le Seigneur Jésus dans le ciel comme notre précurseur, en sachant que par la foi nous sommes cohéritiers avec lui, nous anticipons ce glorieux trésor, l'espoir de gloire, l'espoir d'être un jour avec lui pour toujours. On se glorifie en lui. Comme le dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 1, verset 31, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. On ne se glorifie pas dans notre emploi ou dans notre argent ou dans notre généalogie, dans les choses de ce monde qui peuvent être si facilement enlevées. On se glorifie dans le Seigneur. Considérez Jésus. Le psalmiste nous dit en psaume 16, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Un amour pour les choses de Dieu, une vive anticipation du ciel sont les plus grands antidotes à la mondanité, à retourner vers ce monde. Peut-être que les tentations les plus mortelles viennent de notre propre sentiment d'indignité, de notre découragement à cause du péché, des accusations de Satan qui affligent notre faible conscience. Nous tombons dans le péché. Et bien sûr, l'accusateur va venir vers nous, va nous dire, « Mais comment peux-tu dire que tu es chrétien ? Et tu es réellement uni à Christ par la foi ? Allez, pourquoi ne renonces-tu pas à cette mascarade ? Est-ce qu'on entend ce genre de voix ? Est-ce qu'on ressent cette piqûre de l'accusation de Satan lui-même ? Alors considérez Jésus. Considérez le Seigneur Jésus-Christ. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Que le Seigneur Jésus-Christ soit notre bannière, la source de notre confiance, Fixons les regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Contemplons la suffisance de son œuvre. Réfléchissons à l'amour qu'il a porté pour nous, qu'il a poussé à la croix, à s'humilier et à prendre sur lui notre humanité, afin de donner sa vie en rançon pour nous. Mais lorsque Satan, l'accusateur, lève son doigt vers nous en disant « Tu es un grand pécheur !» On pourra lui répondre « Oui, je suis un grand pécheur, mais Jésus-Christ est un plus grand sauveur. » Tout dans ce passage nous pousse à considérer le Seigneur Jésus-Christ. Il est un grand apôtre, envoyé par Dieu pour nous, vous apporter le salut. Il ne faillira pas. Il est le grand souverain sacrificateur qui nous réconcilie avec Dieu. Rien ne peut nous séparer de Dieu. Il est le maître architecte, le constructeur, qui construit la maison de Dieu pour sa propre gloire, pour sa demeure. Et nous sommes cette maison. Il ne sera pas contrarié, il ne sera pas vaincu. Verset 4 souligne, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Qui a construit toute chose? Chapitre 1 nous a rappelé que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, il nous dit que Christ est Dieu. Et la maison qu'il bâtit sur le rocher de son évangile ne sera jamais détruite. Son peuple ne sera jamais détruit. Il est gardé pour l'éternité. Nous tirons de lui notre courage. Nous tirons de lui notre confiance, notre espérance. Et c'est en lui que nous sommes en sécurité. Que Dieu donc nous aide à comprendre, à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.